Le Monde aujourd'hui avec Julien Corona.
Aujourd'hui à l'émission, on parle des midterms aux États-Unis. Nouveau numéro du Monde d'aujourd'hui, ce 21 octobre 2022. Nouveau numéro à moins de deux semaines des élections de midterms, des midterms américains. On va essayer de vous faire un petit topo avec deux invités, Luc Laliberté, chroniqueur au Journal de Montréal. Bonjour Luc.
Oui, bonjour.
Et avec Julien Toureil de la chaire Raoul Landurant, deux invités qui sont deux habitués de l'émission. Bonjour Julien.
Bonjour.
Donc avec vous deux, on va revenir donc sur ces élections de mi-mandat, des élections de mi-mandat qui sont assez indécises. On sait souvent que les mi-mandats sont quand même défavorables au président en place et au parti au pouvoir en place, mais cette fois-ci, il y a quand même des dynamiques qui sont intéressantes, des dynamiques qui semblent se couper depuis quelques semaines avec, on voyait un Biden et un camp démocrate qui commençaient à refaire son retard, voire même faire une avance. Là, on voit des sondages qui montrent qu'on a un resserrement des intentions de vote à l'approche du scrutin, donc on va pouvoir un peu décanter tout ça avec vous deux. Ma première question, c'est pour vous deux, Julien et Luc, c'est à quoi servent ces élections et surtout pourquoi ces élections cette année encore plus sont importantes. On nous vend à chaque fois, ce sont les midterms les plus importantes de toute l'histoire, mais cette année ça a l'air encore plus. Julien, si tu veux commencer.
Alors, il faut rappeler déjà que les élections de mi-mandat permettent de renouveler l'intégralité de la Chambre des représentants à Washington. Donc, les 435 députés, entre guillemets, qui siègent au Congrès fédéral. On renouvelle aussi en partie le Sénat à hauteur de un tiers. Ça, c'est pour le niveau à Washington, le niveau national. Mais ce sont des élections très importantes au niveau local parce qu'on va renouveler des postes, par exemple, de gouverneur ou de... d'État qui, dans le contexte actuel, sont des postes très importants. Les secrétaires d'État dans les États, sont eux essentiellement qui organisent les élections, et qui dit organisation des élections fait penser évidemment déjà à 2024 de Donald Trump et toute la question de l'intégrité du processus électoral aux États-Unis.
Luc, tu en as beaucoup parlé de cette question, l'intégrité du processus électoral et surtout l'intégrité démocratique. Et quand on voit beaucoup de secrétaires d'État qui se mettent un peu en coalition, ils se disent s'ils sont élus, Donald Trump ne se fera plus voler tel qu'il s'est fait voler en 2020. Donc c'est quand même quelque chose qui est très important, ces élections.
Ben écoute, on a une majorité, Julien, cette année, de candidats qui refusent directement ou indirectement de reconnaître la victoire de Joe Biden comme étant légitime. En soi, ça, c'est déjà un signe qui est inquiétant. C'est inquiétant pour 2022, mais c'est inquiétant aussi pour 2024. Il y a déjà des gens qui annoncent, et je pense à l'Arizona puis au poste de sénateur, entre autres. Ouais, voilà, qui dit ben je ne m'engage pas à reconnaître les résultats. Donc sous-entendu, si je perds, il y a de bonnes chances que je revendique autre chose. J'attire aussi l'attention des auditeurs sur il y a un sondage récent dans lequel 71% des Américains disent nous sommes inquiets pour la démocratie, mais en même temps, il n'y en a que 7% pour lesquels c'est un enjeu immédiat. Et moi, c'est la chose qui m'inquiète le plus, je crois, c'est que oui, il y a cette sensibilisation à la santé démocratique des États-Unis, mais on ne juge pas que c'est urgent, ou on juge qu'on a ce qu'il faut pour régler le problème de l'intérieur avec les règles existantes. Et on voit de plus en plus, c'est un peu comme ça que tu nous as lancé sur le sujet, on voit de plus en plus des manœuvres pour politiser le système. Ouais. On parle bien sûr du comptage des voix, du dépouillement des votes, puis de la certification des résultats.
Et donc cette dualité un peu dans les demandes, dans les attentes de la population, mais les inquiétudes, elles se voient un peu dans ce que la population veut. On a voit les sondages, les programmes des partis, ce que la population attend, quelles sont les réponses, à quoi s'attendent les grandes demandes de la population américaine. Et Julien, on peut voir un peu l'avortement, par exemple, qui avait été brandi comme un des étendards de la campagne démocrate. Finalement, c'est l'inflation qui est le plus important, c'est l'économie, c'est l'essence et la sécurité. Et à partir de là, on voit un matraquage républicain sur ces questions et qui leur a permis un peu de remonter dans les sondages ces dernières semaines.
Oui, tout à fait. Et peut-être juste avant de répondre à ta question, souligner ce que mentionnait Luc sur cet apparent consensus américain, le 71%, qui estime que la démocratie est menacée. On pourrait s'imaginer qu'il y a donc consensus là-dessus, mais on n'est pas d'accord chez les Américains sur qu'est-ce qui représente une menace à la démocratie. Et là, c'est diamétralement opposé entre démocrates et républicains. Ça fait que sur ce facteur très, très, très important, on ne peut pas dialoguer, puisque, par exemple, du côté républicain, on est convaincu que c'est la corruption gouvernementale qui représente une menace à la démocratie. Le fait que les fonctionnaires, par exemple, ne travaillent pas pour le bien public. Tandis que, du côté des démocrates, on est préoccupé par le fait que dans le camp républicain, il y ait des gens qui soient prêts à tout pour ne pas reconnaître des résultats légitimes d'élections. Alors, pour en revenir à ta question, on a le sentiment, finalement, qu'au-delà de grands débats de société que les démocrates aimeraient voir au cœur de cette campagne, la question de l'avortement, évidemment, la question aussi du contrôle des armes à feu, la question largement de la démocratie, de l'intégration peut-être des minorités non culturelles aux États-Unis, ben, on constate que les sujets qui préoccupent la majorité des électeurs, ce sont des sujets très traditionnels, très terre-à-terre, le prix de l'essence à la pompe, les perspectives économiques avec les craintes de récession et évidemment un sujet comme la loi, l'ordre, le crime sur lequel les républicains jouent finalement leur stratégie pour essayer de faire oublier aussi un petit peu Donald Trump.
Et aussi, Luc, pour revenir un peu sur cette question d'économie, c'est quand même un peu, on a un peu la réalité face au sentiment parce que le marché du travail n'a jamais été aussi bon aux États-Unis. Les perspectives de croissance, malgré l'inflation, malgré les risques de récession, les perspectives de croissance personnelle du fait de quand même des richesses qui commencent un peu à aller mieux, même chez les classes les plus pauvres, ça n'a jamais été aussi bon. Mais la sensation, c'est que cette croissance, cette richesse, ces possibilités d'expansion ne viennent pas vers soi. Donc comment les démocrates pourraient faire en sorte de montrer que la réalité doit prendre le pas sur la simple petite opinion que les républicains essaient de jouer dessus un peu sur ces points-là?
Non, puis c'est la grande problématique, je pense, des démocrates, c'est comment vendre le message. Je pense que Joe Biden pourrait d'ailleurs faire un bilan de ses deux premières années et dire, en respectant les faits, regardez ce qu'on a accompli pour un premier bloc de mandat, pour une première portion de mandat. J'ai pas à rougir de ma performance dans l'ensemble. Maintenant, ce n'est pas ce message-là que la population reçoit, au point où Joe Biden est déjà, lui, sur le pied de guerre, hein, sur le pied d'alerte. Il est prêt pour une campagne électorale. Et il y a des endroits où, malheureusement, pour lui, on ne veut pas encore le voir. On va peut-être plutôt ouvrir la porte à un Barack Obama qui effectue un retour là, dans...
Wisconsin.
Donc, ce serait intéressant de voir ça. Puis Biden est également divisé, on le sait, par la division même du parti. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il souhaiterait parler de pré-étudiants. On sait qu'il vient de procéder à une annonce qui est importante. Il veut parler d'avortement, il veut parler d'environnement. En même temps, à certains endroits, on est plus terre-à-terre ou pragmatique, avec un guillemet peut-être, ou des guillemets autour de ça. Mais on va vouloir plutôt qu'ils disent comment on lutte contre l'inflation. Mmh. Ces jours-ci, ben, il dit, écoutez, moi, j'ai puisé dans nos réserves de pétrole. Là, je vais libérer un certain nombre de barils de pétrole. Il doit dire, ben, je fais pas ça à des fins politiques. Le jeu est un peu gros, mais on le sent un peu prisonnier de la division à l'intérieur même de son parti.
Et là, cette question de ne pas le faire à des fins politiques, ça amène ensuite à la réaction des médias par rapport à ce genre de mesures, par exemple libérer les barils de pétrole. Et on voit une forte influence des médias dans la campagne. Et ça, la question, vous savez où ça revient, une forte influence de Fox News dans cette campagne, surtout du côté républicain, qui est en train un peu, quand on voit comment les sondages et comment Fox est un peu derrière certains candidats, de sauver des campagnes qui étaient chancelantes, voire même proches de la catastrophe pour certains candidats. J.D. Vance en Ohio, le candidat au Sénat pour le Parti républicain, et le candidat encore plus Dr Mehmet Oz en Pennsylvanie face à John Fetterman, qui a ne serait-ce que moins de deux semaines était à plus de 15% de retard face à Fetterman, et là est à 5%. Donc Julien, ma question, c'est comment tu penses que ces médias peuvent avoir une influence et comment ils devraient essayer de traiter toutes ces questions qui sont à la limite entre l'économie, la décision normale et le politique tel que le pétrole?
C'est un vaste programme, une vaste question. Je dirais simplement que c'est pas nouveau que du côté conservateur et républicain, on ait des médias qui soient efficaces, en ordre de marche, pour, en campagne électorale, appuyer des candidats, relayer un message qui participe d'un discours qui peut être dénoncé comme simpliste, comme faux, mais qui est relativement, voire très efficace. Et là, on en revient finalement au problème qu'ont les démocrates et peut-être le problème qu'ont aussi les médias qui seraient plus proches de la sensibilité progressiste. Cette incapacité à présenter, et Luc le soulignait, les bons coups, en respectant évidemment les faits, des deux premières années du mandat de Joe Biden, parce qu'il a fait des choses très importantes. Son bilan législatif est le plus significatif depuis des décennies. On est bien au-delà, par exemple, de ce qu'avait pu faire Obama, mais on a toujours cette impression, et peut-être là, il y a un problème d'agisme avec Joe Biden, on y revient souvent, qu'on va mettre l'accent sur ce qu'il n'a pas réussi à faire, par exemple, obtenir de l'OPEP+, une augmentation de la production de pétrole ou une non-annulation de cette augmentation-là, où on va mettre de l'avant ces gaffes. Et on en revient encore une fois à ce problème que les démocrates ont à identifier un message clair, limpide, qui résonne auprès d'un électorat qui s'attend à des choses.
Et Luc, au niveau du message, si tu veux, je ne sais pas ce que tu penses de ça. Par exemple, on voit un peu l'exemple parfait, ça permet de passer aux grandes courses à suivre. C'est dans le cadre de la campagne de Fetterman, on essaye de mettre le message valeur progressiste, emploi, on va être là aussi pour le petit peuple qui était parti du côté républicain dans les dernières années, le peuple ouvrier, mais qui tend, avec des candidats comme Fetterman, à vouloir peut-être revenir au Parti démocrate. Mais néanmoins, le message a du mal à passer et on met plus l'accent sur les bourdes, là, les ennuis de santé de Fetterman que sur le discours et les risques de la candidature de Oz.
Ben écoute, j'ai envie de te dire que ça touche Fetterman, mais ça touche un certain nombre d'États aussi. Moi, qu'un candidat comme Herschel Walker survit à une candidature qui, je pense qu'on peut dire objectivement que c'est une candidature qui est particulièrement faible, ce serait pas de faire de la partisanerie politique que de dire qu'il n'a absolument aucune compétence, puis que le nombre dénoncé est totalement faux et on atteint des
c'est juste sortir un jouet pour faire croire qu'on est policier dans un débat et après se défendre de ça, à mon sens, la campagne aurait dû être finie à ce moment-là. Mais non,
il mène la campagne à une autre époque. Puis c'est important comme changement. À une autre époque, il serait discrédité dès le départ. Maintenant, il est, selon les sondages les plus récents, il n'est qu'à 3 points de Warnock. Et on peut reprocher, si on est un électeur républicain ou indécis, d'être un peu trop progressif. C'est déjà une grosse affirmation, mais de le mettre sur le même pied qu'un candidat comme Walker, c'en est ridicule. Ça montre une chose, d'abord, à quel point la couverture, elle est très polarisée, c'est-à-dire qu'il faut quand même que les démocrates prennent acte de ça, que même quand on a un très, très mauvais candidat, une caricature de mauvais candidat, ce que proposent les démocrates apparaît pas suffisant pour que quelqu'un se dise « Non, Walker est incompétent, mais je vais quand même voter pour lui parce que je rejette carrément ce que disent les démocrates. » Ça veut dire qu'on arrive plus, on n'arrive plus à rejoindre autre chose que des convaincus. Et l'autre chose qui vient avec, et M. Fetterman paie pour ça un petit peu aussi, là, parce qu'il mène une campagne très populiste, comme plusieurs au sein du Parti républicain le font. Mais le niveau de désinformation de cette campagne-là, c'était déjà le cas en 2016, le niveau de désinformation de cette campagne-là, il est étonnant. Et quand j'écoutais Julien tout à l'heure parler des médias qu'on dit plus traditionnels, mais un peu plus progressistes, ils sont aux prises avec un phénomène, et je ne sais pas comment on peut lutter contre ça. C'est-à-dire qu'on peut faire un journalisme qui ne serait qu'un journalisme que de fait, dans lequel il n'y a absolument aucune analyse ou explication. Ça ne passe pas. Les gens ne les lisent plus, puis on ne sait plus comment rejoindre un certain électorat ou un certain auditoire, si on parle de télé ou de radio.
Julien?
Et oui, alors là, c'est le problème au-delà peut-être du Parti démocrate aux États-Unis. Bon, c'est eux là qui sont pris avec, et ça montre quand même l'état de cette société. Voilà, l'état de la démocratie. Mais en même temps, l'incapacité qu'on a, au-delà du diagnostic un peu catastrophique sur la démocratie va droit dans le mur ou elle périclite aux États-Unis, à trouver des solutions concrètes. Parce que finalement, ce discours sur la démocratie est en danger, on pourrait imaginer, quand on observe ça de loin, ou même qu'on prend un peu de hauteur par rapport à la joue politique, que ça devrait mobiliser les électeurs. D'ailleurs, Joe Biden a essayé de le faire il y a quelques semaines avec un discours à Philadelphie sur cette question-là. Ben, on voit que ça a pas d'effet parce que, encore une fois, les Américains vivent dans des bulles particulièrement étanches et séparées, des bulles tribales. Et encore une fois, on revient à ce qu'on dit au début, même si on est assez d'accord sur le fait que la démocratie américaine va mal, c'est pas pour les mêmes raisons. Et surtout, on propose pas de solution tout à fait concrète qui pourrait améliorer la situation.
Et pour revenir sur ce que Luc disait, par exemple, sur même si le candidat est catastrophique, on va quand même voter pour lui. Je vais prendre l'exemple à la suite d'Herschel Walker et des histoires d'avortement qui sont sorties, qu'il aurait fait faire, qu'il aurait ordonné de faire en échange d'un chèque à une de ses ex-femmes. On a pu voir la porte-parole de la NRA qui a pu réagir dans le cadre de son podcast, qui disait c'est pas grave qu'il ait fait ça, vaut mieux mieux voter pour lui, même s'il a peut-être fait ça. Au moins, lui, c'est un vrai chrétien. Et elle disait ça en face à le révérend Raphaël Warnock. Raphaël Warnock est un révérend. Donc, c'est en mode, on va dire, malgré le fait de sa stature d'homme de foi, d'homme de religion, ce n'est pas un vrai croyant, car il n'est pas républicain. Donc, à la fin, tribaliste politique, on vote pour son camp, même si le candidat est catastrophique. Et donc, ça fait venir à la question, advenant d'une victoire du Parti républicain ou du Parti démocrate, quelles seront les deux prochaines années? Parce que c'est ça. 2022, ça nous permet de poser les yeux sur 2024. À quoi ressemblerait une Chambre des représentants sous la gouverne républicaine, étant donné que probablement le Sénat risque de rester démocrate à 50 plus 1 ou 51 sénateurs, Luc?
La Chambre, si on regarde les sondages depuis des semaines, il y a eu un léger rapprochement, une légère montée des démocrates, mais tu vois, le site 538, le 538, leur donne encore 75% des chances aux républicains de reprendre le contrôle. Et ce qu'on entend depuis des semaines, c'est que ceux qui vont être dans les postes de commande, quand on va changer les responsabilités, c'est le sort que les démocrates ont réservé à Donald Trump, on s'apprête à le réserver à M. Biden. C'est-à-dire qu'on parle déjà de destitution. On en est. Moi, je pensais que les démocrates avaient des motifs très sérieux au plan constitutionnel de s'en prendre à M. Trump. Mais utiliser la procédure de destitution si souvent s'en vient également à la banaliser. Et c'est le sort qu'on s'apprête à réserver à Biden. Ce qu'on peut entrevoir à la Chambre, puis j'ai hâte de voir parce que ça va toucher à la fois la politique étrangère et la politique intérieure. C'est une absence totale de collaboration.
Avec l'Ukraine.
Donc, il y aura toujours le Sénat sur lequel M. Biden peut compter, mais le système américain fait en sorte que si les deux chambres sont divisées, on avance très peu.
Et là, Julien, sur cette question aussi, on parlait des grandes politiques, c'est qu'on risque de voir d'un côté certains extrémistes plus mis en avant. On a beaucoup souvent ri ensemble des personnes comme Marjorie Taylor Greene, Lauren Boebert. Malheureusement, elle risque d'être encore plus présente. Mais c'est aussi voir la question des aides à l'Ukraine. Par exemple, cette semaine, on a pu voir McCarthy, le patron des Républicains à la Chambre, qui disait tout de suite l'aide inconditionnelle à l'Ukraine, c'est terminé si on est élu. Julien, qu'est-ce que tu en penses?
Oui, mais les perspectives, si la probabilité, est très élevée que les républicains prennent le contrôle de la Chambre, elles sont assez sombres sur la capacité de Biden, évidemment, à mener son programme législatif à l'interne, ça sera réglé puisqu'il pourra plus rien faire, à toute fin pratique. Peut-être des nominations, par exemple, à des postes de juges fédéraux au Sénat, s'ils arrivent un peu à passer, puisque c'est le Sénat qui s'en occupe. Mais oui, c'est sur la politique étrangère, vous avez cette opposition qui est peut-être pas aussi ferme sur le fond de la part de quelqu'un comme McCarthy, parce que là, c'est l'un des rares sujets peut-être sur lequel il y a un consensus dans la population américaine. On est derrière les Ukrainiens. Donc là, c'est peut-être une posture de campagne et l'administration, la présidence peut louvoyer un petit peu à une plus grande marge de manœuvre en politique étrangère pour mener à bien ou pour poursuivre l'aide à l'Ukraine.
Luc, est-ce que tu penses, malheureusement, malgré tous ces oiseaux de mauvais augure qu'on est en train de déverser sur les démocrates, est-ce que tu penses quand même qu'ils ont une chance de pouvoir percer à l'approche du scrutin et peut-être réussir à conserver la Chambre?
Moi, je surveillais beaucoup la question, puis on l'a évoqué au tout début de la discussion tout à l'heure, la question que je surveillais, c'est la réaction qu'il y a eu dans la population américaine quand on a décidé d'annuler ou de renverser le jugement Roe versus Wade. Ouais. Et la première question, la première réflexion que je me suis faite à ce moment-là, c'est la grogne est terrible, la colère elle est grande, il y a une majorité, une forte majorité d'Américains qui veulent sous une forme ou sous une autre qu'on maintienne le droit ou le recours à l'avortement. Est-ce que cette colère-là va être durable? Est-ce qu'on peut en bénéficier? Et je lisais des stratèges démocrates dans les dernières journées qui disaient, je pense en anglais, qu'on a atteint notre peak, qu'on a atteint notre sommet trop tôt, que finalement, cette vague de mécontentement-là, on aura eu le temps de la passer du côté républicain, que le pire est derrière nous. Donc, ça pourra avoir un effet dans certaines circonscriptions, mais pas suffisamment, je pense, pour que les démocrates puissent envisager, comme le disait Mme Pelosi il y a peu de temps, maintenir ou garder le contrôle des commandes de la Chambre.
Julien, qu'est-ce que tu penses de cette question?
Oui, je suis aussi pessimiste. La question de l'avortement, traditionnellement aux États-Unis, même si les partisans de l'avortement sont choqués qu'on puisse être contre et ont été très choqués après la décision de fin juin de la Cour suprême d'abroger Roe, elle mobilise avant tout ceux qui sont opposés à l'avortement. C'est comme la question des armes à feu. Ça mobilise les électeurs qui sont partisans de la grande liberté d'avoir une arme à feu, bien plus que ceux qui sont favorables à des mesures contraignantes. Et ça, ça joue traditionnellement en faveur donc des républicains, à la défaveur des démocrates. Et on voit un peu la même chose que les démocrates ont essayé de faire en faisant de cette élection, non pas un référendum sur Biden, mais un référendum sur Donald Trump. Ouais. Ça pouvait marcher dans une certaine mesure lorsque Trump, là, dans les dernières semaines, était au cœur de l'actualité, pas pour des raisons évidemment positives, mais là aussi, si on regarde un peu l'effet politique des conclusions, notamment la semaine dernière de la commission de la Chambre des représentants sur les événements du 6 juillet.
Ça a été très faible.
Ça a été très faible. On s'aperçoit qu'en fait, aujourd'hui, donc une semaine après, vous avez moins d'Américains qui pensent que Donald Trump était directement responsable de ces émeutes au Capitole. Donc là aussi, encore une fois, le travail important qui a été fait par cette commission, mais il ne donne pas des dividendes politiques en termes électoraux. Et on peut là aussi y voir un échec, encore une fois, des démocrates à convaincre l'opinion publique. Alors, c'est peut-être pas uniquement du fait de leur incompétence. Hein, j'attribue pas ça nécessairement à ça du côté des démocrates. Mais peut-être à une imperméabilité de la société américaine par rapport à un enjeu qu'elle n'estime pas pour ces élections éminemment importantes.
Mais néanmoins, il y a quand même quelques questions qui pourraient peut-être aider les démocrates. On voit par exemple au niveau des statistiques, plus de gens qui sont intéressés à voter par anticipation, qui ont commencé aussi à voter par exemple dans certains États comme la Géorgie. C'est une mobilisation plus forte en avant de la date de vote. C'est une mobilisation qui est souvent extrêmement en faveur du Parti démocrate. Donc est-ce que ce genre de premiers chiffres qui remontent, peut-être des chiffres qui, si la tendance se maintient, pourrait aider le Parti démocrate? Luc, tu en penses quoi?
Ben, c'est surtout, tu relèves un élément intéressant, c'est surtout dans ce vote par anticipation, si j'ai bien lu les derniers chiffres qui étaient disponibles, ce sont surtout des femmes qui sont sorties. Est-ce que parce que la couverture médiatique nous parle un peu moins d'avortement, qu'on le sent un petit peu moins dans les sondages, il y a une part de surprise à chaque élection. Ouais. Est-ce que cette part de surprise va venir du fait que des femmes, effectivement, ont fortement réagi à la décision sur l'avortement et que ça pourrait devenir, malgré tout, une question de l'urne? J'étais bien d'accord avec Julien pour dire, ça mobilise habituellement ceux qui s'opposent au recours à l'avortement. Traditionnellement, c'est ça. Donc, la part de surprise, en tout cas, un des volets que je vais surveiller l'annonce des résultats, c'est combien de femmes sont allées voter, dans combien d'États, quelles circonscriptions. Bien sûr, la localisation va être très, très importante. Ouais. Mais est-ce qu'on n'aura pas une surprise de ce côté-là? Est-ce que ça ne s'est pas demeuré une question de l'urne, finalement?
Julien Toureil, Lucas Liberté, toujours avec nous dans cette émission. Et Julien, pour revenir avec toi au niveau de la participation cette élection, les mi-mandats, est-ce que la participation est souvent une élection assez importante au niveau... une participation assez importante pour ces élections? C'est quoi la tradition? Bon.
Traditionnellement, les élections de mi-mandat ont un taux de participation qui est de 10 à 20% plus faible que pour les élections présidentielles. Alors, il y avait un inversement de tendance lors de l'élection de mi-mandat de 2018, là, qui avait vu une participation, un rebond de participation elle avoisinait presque ce qu'on retrouve dans une élection présidentielle. On était évidemment avec Donald Trump à la présidence. Ça peut être un facteur d'espoir pour les démocrates cette année, si la participation est importante. Ça veut dire peut-être que leur électorat se mobilise, notamment l'électorat féminin, mais une autre tradition qui est dure à surmonter, c'est que aux élections de mi-mandat, depuis la Deuxième Guerre mondiale, le parti du président a perdu grosso modo 2 douzaines de sièges, et les républicains cette année n'ont pas besoin de faire des gains extraordinaires à la Chambre. Et d'ailleurs, le redécoupage de certaines circonscriptions leur donne pas mal, un avantage et la main sur la majorité à la Chambre. Et on parle plus pour les démocrates, de limiter la défaite, de limiter la casse et de ne pas subir un raz-de-marée républicain.
Et une autre question aussi que tu avais pu parler, Luc, dans certaines de tes chroniques, c'est la place des indépendants dans l'électorat américain. Est-ce que ces indépendants vont avoir un rôle à jouer, surtout par rapport à quels sont les grands thèmes de ces élections à l'approche du scrutin dans 2 semaines?
Ben écoute, Julien vient un peu de répondre à la question en disant habituellement, le taux de participation est plus faible. Donc, il y a tout un travail. Moi, ce que les démocrates nous ont démontré en 2020 pour l'élection de Biden, c'est qu'au-delà des divisions, ils ont quand même été en mesure d'effectuer un travail de terrain. Ouais. Ils sont devancés en termes de productivité. Ce que les républicains font habituellement, là où ils dominent, ils sont très habiles à faire sortir le vote. Peut-être parce que leur électorat est plus convaincu en partant ou plus mobilisé en partant. Mais on nous a montré, en allant chercher 8 millions de votes de plus, puis dans une élection qui avait des taux records, autant pour le gagnant que pour le perdant. Donc, on nous a montré qu'on pouvait mobiliser. Est-ce que le coup va fonctionner encore? Puis une chose que j'ai pas mentionné, je sais pas si Julien a de meilleures statistiques que les miennes ou des informations de sources plus sûres que ce que j'ai pu lire ou glaner ici à gauche et à droite, mais une chose qui m'inquiète pour cette élection-là et pour 2024, et j'y référais dans certains des textes que j'ai rédigés, il y a une partie de l'électorat américain qui me semble plus indifférente au fait qu'on puisse glisser vers un régime un peu plus autoritaire. Biden avait référé à semi-fascisme, ce qui a semé le doute, ou en tout cas, on se demandait quelle était bien la définition du semi-fascisme, mais j'irais avec une enveloppe plus générale en disant il y a une forme de dérive autoritaire. Et pour beaucoup d'Américains, la polarisation est telle qu'on se soucie plus, finalement, de ce que pense l'adversaire que des moyens que donnent ceux à qui on fournit notre appui. Et je vais tenter de voir au travers des résultats ou des préparatifs, des résultats à l'élection, comment ça peut se manifester, comment ça peut se présenter.
Julien, qu'est-ce que tu penses de ça?
Alors, j'ai pas de données ou d'informations beaucoup plus précises que Luc, mais je reviens à ce que Luc disait au début de la discussion, et qui peut donner un éclairage par rapport à ça, c'est le nombre de candidats républicains qui adhèrent d'une façon ou d'une autre à la contestation de résultats légitimes. Hein, il le soulignait, c'est la moitié, même plus de la moitié des candidats aux différents postes à pourvoir dans le cadre de ces élections de mi-mandat. Et je pense que ça en dit long sur finalement l'acceptation d'une partie de la population américaine par rapport à et par rapport à un discours qu'on pourrait apparenter à de l'autoritarisme, voire même à un déni de démocratie totale. Enfin, il y a quand même le candidat républicain au poste, par exemple, de gouverneur en Pennsylvanie, dit clairement que si les résultats de l'élection présidentielle de 2024 dans son État lui plaisent pas, ben, il aura le droit de les dénoncer et d'envoyer une autre liste de résultats au Congrès pour la certification. Enfin, c'est des choses qui sont complètement incroyable et qui devrait disqualifier normalement le candidat. Mais on le voit avec les républicains depuis 2016 et Donald Trump, on peut aller dans l'outrance la plus totale, dans l'affirmation la plus ouverte du déni des principes démocratiques sans que cela ait des coûts politiques parce qu'encore une fois, vous avez peut-être des électeurs qui se disent finalement, c'est peut-être pas si grave que ça après tout la politique parce que ça nous concerne pas vraiment. Enfin, ce qui nous préoccupe, c'est le prix de l'essence à la pompe et si on peut vaquer à nos occupations, tant pis pour les débats philosophiques. Il n'y a pas un candidat, je crois, au Québec, au poste de Premier ministre qui a dit que les intellectuels, les débats intellectuels ne préoccupent pas tout le monde. On le voit bien.
Et si vous me permettez le mot de la fin, car on doit conclure, mais si quand on fait prendre l'exemple un peu d'hier, on prend l'exemple de ce que Luc disait sur la polarisation amène à vouloir peut-être plus d'autoritarisme pour lutter contre l'ennemi, pour lutter contre le camp adverse. On va prendre l'exemple hier de l'émission de Tucker Carlson, où Tucker Carlson expliquait que MSNBC, chaîne l'équivalent un peu démocrate de Fox News, donc chaîne plus progressiste, tentait de créer une race war contre les blancs et qu'il faudrait plus de violence et plus d'autoritarisme pour lutter contre ce genre de discours, donc un gouvernement républicain qui permettrait de mater l'ennemi. C'est l'exemple parfait d'une polarisation du discours où on est prêt à plus de violence et plus de tension pour lutter contre cet ennemi en question. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi. Luc Laliberté, chroniqueur au journal. Merci beaucoup, Luc.
C'est un grand plaisir. Et bien content de rencontrer l'autre Julie.
Et merci beaucoup, Julien Toureil, de la chaire à Hollande Durand et de chargé de cours à l'UQAM. C'est toujours un plaisir de te recevoir, Julien.
Un plaisir partagé et très heureux d'avoir pu discuter avec Luc par téléphone, peut-être un jour en vrai.
Oui, ça va. Avec plaisir quand vous voulez au studio.
Bien ouvert à la chance.
Oui. Passez une très belle journée à vous deux. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Monde d'aujourd'hui.